Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 26. Je reçois Maxence, ingénieur de formation qui a lancé Marketing Résistant pour accompagner les entrepreneurs engagés suite à une prise de conscience écologique alors qu'il travaillait dans le conseil en informatique. Il nous raconte ses expériences professionnelles multiples et son cheminement pour trouver sa voie et lancer pas à pas son activité. Bonne écoute. Bonjour Maxence.
Salut Jean-Philippe.
Maxence, tu as 30 ans et tu es ingénieur de formation. Après une première expérience dans les énergies solaires, tu es devenu consultant digital et depuis 3 ans, tu as lancé Marketing Résistant pour accompagner les entrepreneurs sociaux et environnementaux. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et ce changement de voie vers l'économie sociale et solidaire ?
Oui, alors c'est un parcours qui est rempli de plein de petits virages et de tête à queue. Je vais commencer par le début. Donc, je suis ingénieur de formation et puis j'ai un master en entrepreneuriat. J'ai commencé à bosser dans une petite boîte des énergies renouvelables. Donc, pour ceux qui connaissent, surtout ceux qui ne connaissent pas, c'est du solaire thermique à concentration. Donc, le principe est assez simple, c'est on concentre l'énergie du soleil avec des miroirs pour chauffer un fluide, en l'occurrence de l'eau, à très haute température. Et comme ça, on peut en faire plein de choses. On peut installer ça sur le toit des bâtiments, en faire des grandes tours ou faire des petits barbecues. Il y a plein d'applications possibles. Et sauf que la boîte, enfin, l'innovation était vraiment géniale. C'est une vraie solution pour le changement climatique et l'approvisionnement en énergie. Sauf que j'étais avec un inventeur un peu géotrouve-tout de 50 ans qui avait déposé de brevets, tout ça. Donc, qui était très bon techniquement, mais qui ne savait pas mettre ses innovations sur le marché. Donc, la boîte a un peu coulé. Il n'était pas bon en entrepreneuriat. Et donc, j'ai dû quitter cette boîte. Et j'en suis sorti avec une leçon qui est que le monde n'a pas tant besoin d'innovation. Surtout, ce qu'il a besoin, c'est d'un changement culturel et de gens, en fait, pour mener ce changement et mettre ces innovations sur le marché. Et donc, il a besoin de plus d'entrepreneurs et de marketeurs engagés que vraiment d'inventeurs ou d'ingénieurs. Même si on est d'accord que c'est important aussi. Et donc, à la suite de ça, je me suis un peu perdu pendant un an à refuser des jobs d'ingénieur classique, consultant. Et j'ai finalement fini par céder en arrivant sur Bordeaux. À la base, je suis de Lyon. En arrivant sur Bordeaux, j'ai trouvé un job alimentaire dans une multinationale, une SS2I, donc une société de conseil en informatique. Et donc là, j'ai découvert le monde de l'entreprise, les tickets restaurants, les réunions, le vrai job, quoi. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Alors peut-être que je suis mal tombé, mais on m'a mis sur des missions vraiment inintéressantes au possible. J'étais facturé une somme astronomique, et pourtant mon métier c'était de faire du copier-coller et de faire des PowerPoints. Et donc je me suis vraiment, enfin. Désintéressé de ça et j'en suis venu à avoir un vrai bullshit job où je bossais seulement 2 heures par semaine et je recevais un mail par jour de mon chef qui en fait voulait juste j'étais là pour le quota, pour faire la facturation, pour avoir du budget, mais absolument pas là pour faire un boulot intéressant. Bon, si on me donnait du boulot, au pire c'était du boulot pour combler les trous. Et donc là, j'ai eu beaucoup de temps, petite période de dépression, hein, parce que les bullshit jobs et le brown out, comme on dit, c'est vraiment très dur psychologiquement, mais au moins ça m'a fait une petite claque. Et j'ai commencé à la fois à me renseigner sur l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat web. On a monté une boîte avec des copains on vendait des lunettes anti-lumière bleue. La lumière bleue, c'est la lumière des écrans qui empêche, qui fait des dérèglements hormonaux, qui assèche les yeux, tout ça. Et à côté de ça, j'ai écouté énormément de conférences sur l'écologie systémique, du Jean-Marc Jancovici, du Pablo Servigne, un peu tout ce qui est puisqu'il tournait aussi un peu autour de la collapsologie. Et je me suis pris ma claque. Je me suis rendu compte que l'écologie, c'était pas seulement un truc de bobo, mais un truc pour de vrai, quoi. C'est une condition de survie de la planète Terre, voilà. Donc, j'avais une sensibilité environnementale avant, mais c'était juste une sensibilité, et là, je me suis pris ma claque. Et du coup, je me suis dit, non, je peux pas rester sans rien faire. Je peux pas continuer à gâcher ce que j'ai entre les deux oreilles, mon cerveau, mes talents, mes capacités, et tout ce que j'ai appris, notamment en entrepreneuriat et pendant mon école d'ingé. Je peux pas le gâcher à faire du copier-coller, quoi. C'était pas possible. Donc j'ai quitté ce job après 2 ans, avec pas mal de confiance parce qu'on a le chômage en France, et je me disais, j'aurai le temps de me relever. Et la boîte commençait à bien tourner aussi avec les copains, peut-être presque un peu trop bien, parce que ça a aussi créé des tensions et des différences de vision, de stratégie et d'organisation en interne. Donc c'est un projet que j'ai quitté aussi après pour faire mon propre truc, et ce qui m'a amené du coup à monter Marketing Résistant. Donc c'est aujourd'hui, je suis on va dire coach pour les écolos qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc des gens qui sont alors qui savent pas forcément qu'ils sont en reconversion professionnelle, mais qui commencent à se poser des questions, et puis à un moment c'est un peu le sujet de ton podcast, hein, c'est ils osent, et sauf qu'on ose, on se lance, et puis ah merde, je sais pas comment faire en fait, et là du coup je suis juste une petite main aidante pour leur dire non, mais écoutez, moi je sais comment on fait, et je te montre le chemin, et il y a rien de compliqué, tout le monde peut le faire. Et on va y aller petit à petit, et c'est parti, quoi.
D'accord, ben merci pour ce résumé condensé de tout ton parcours. On va revenir sur pas mal de périodes. Je trouve qu'il y a pas mal de choses très intéressantes dans ce que tu dis. Peut-être d'abord, commençons par ce que tu fais aujourd'hui, peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail de Marketing Résistant. Comment t'es venue l'idée, qui sont les gens que tu accompagnes, de quelle manière, comment ça se passe?
Ouais. Alors ma porte d'entrée, c'est je brasse un peu de. J'aime bien remuer la merde, on va dire, sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau professionnel très très pro, un peu froid, où tout le monde raconte des banalités. Et donc moi, j'arrive et puis j'ai remué avec des posts qui sont pas toujours très, enfin, qui créent un peu la polémique, mais aussi qui créent beaucoup d'engouement de la part des gens pour qui ces valeurs environnementales et d'entrepreneuriat sont importantes. Et donc ça me donne de la visibilité, et là je renvoie les gens en leur disant, voilà, on prend 30 minutes pour s'appeler, juste comme ça en fait, enfin gratuitement, sans rien, juste parce qu'on fait partie d'un mouvement collectif de résistance. Enfin, moi c'est comme ça que j'appelle, c'est pour ça que Marketing Résistant. On est éparpillés, mais par contre on a les mêmes valeurs, et de ce fait en fait on peut interagir avec énormément de bienveillance très rapidement. Donc avec les gens on s'appelle, ou alors ils s'inscrivent à mon coaching email quotidien sur marketingresistant.com, et donc là j'envoie un mail par jour aux gens, c'est mes pensées du jour sur des choses que j'ai lues ou que j'ai vues sur l'entrepreneuriat ou sur l'écologie, ou des réflexions, peut-être des réflexions philosophiques ou des réflexions marketing très pointues sur comment réussir une page de vente. Enfin, il y a un peu de tout là-dedans, ce qui en fait un truc qui plaît pas mal, parce que c'est très hétéroclite, ça change de sujet souvent. Et donc suite à ces coachings par email, souvent les gens je tisse une relation assez forte avec eux, et donc quand il y en a qui ça fait 2-3 mois qu'ils se posaient des questions et qui là se disent, je vais me lancer, ou ça y est, j'ai un projet, là je les prends en coaching. Donc coaching à distance généralement. Enfin, coaching, c'est pas coaching, je suis pas coach certifié, hein, c'est plus du mentoring entre guillemets. Et donc là on bosse sur leur projet, je les accompagne, et voilà, le projet se développe. Là, j'ai une entrepreneuse, Jéronyme Gallard, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, notamment un peu sur LinkedIn, mais elle va bientôt, sa marque là, va bientôt sortir au grand jour, So Ugly, So Tasty, qui fait, je l'accompagne depuis 6 mois, et 8 mois même, et elle fait des confitures à base de fruits d'invendus. Elle fait ça en Belgique, ça existe déjà en France, mais elle fait ça en Belgique, c'est, c'est vraiment super ce qu'elle fait. Et donc voilà, elle est partie en mode oulala, mais j'ai un projet, mais je veux surtout pas qu'on me pique l'idée, donc j'en parlerai à personne. Et la première fois que j'ai eu au téléphone, je lui ai dit bah non, mauvaise pioche, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Il faut en parler à tout le monde, pas pour avoir leurs avis, mais parce qu'il y a les gens qui veulent t'aider. Et donc vas-y, fonce. Et donc on a vu comment aborder ces gens, comment leur parler. Quels médias, est-ce que c'est par internet, est-ce que c'est par les réseaux sociaux, est-ce que voilà, et même en tant que posture d'entrepreneur et tout ça, voilà. Et du coup aujourd'hui bah elle a pas lâché, ça fait 8 mois qu'elle est sur son projet et ça se développe à fond, donc c'est rien que ça, c'est ouf en fait, c'est vraiment génial.
Et au niveau des entrepreneurs que tu accompagnes, c'est tout type d'entrepreneurs, c'est des projets en particulier?
Alors, c'est surtout des entrepreneurs. Alors, moi, je suis très proche du caractère écologique. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'âme des gens. Donc, c'est-à-dire si... et leurs intentions. C'est-à-dire, si je vois qu'une personne est dans l'écologie de manière intéressée, parce que c'est à la mode, ou voilà. Par exemple, j'ai eu des projets de cosmétiques bio. Enfin, ça, j'en ai... Je sais pas, je reçois des au moins 5 demandes par semaine de gens qui veulent lancer ça. Et ouais, ça touche pas à quelque chose de nécessaire, donc j'ai du mal à accompagner ce genre de projet. Donc j'ai plutôt tendance à les refuser. Et d'autant plus que je pense que l'offre sur le marché est assez grande. Et donc du coup, ça peut être non, tout type d'entrepreneur au niveau de l'âge. Ça peut être des gens en sortie d'école. Ça peut être des jeunes actifs qui commencent à se poser des questions après la désillusion du salariat, notamment pas mal d'ingénieurs, hein, parce que moi à la base j'ai un réseau d'ingénieurs, et puis surtout je pense que ma manière de voir le monde correspond pas mal, mais aussi des personnes de 40-50 ans qui sont en reconversion, qui se disent bah voilà, Jéronyme par exemple, elle s'est pris une claque avec ses enfants, ses deux filles qui sont mis à faire du zéro déchet, et ça l'a sensibilisé, et elle s'est dit ah bah merde, en fait il faut moi aussi que je sois acteur de ça. Donc c'est vraiment tout type de projet, et aussi en termes, ça peut être simplement de l'idée à quelqu'un qui est lancé, à quelqu'un qui fait déjà 5000 euros de chiffre d'affaires et qui veut pas 5000 euros de chiffre d'affaires par mois et qui veut passer à 10 000. Donc j'ai vraiment, mon scope il est assez grand.
Et comment t'es venu à cette idée? Comment est-ce que t'en es arrivé à te dire, oui voilà, moi ce que je veux faire c'est marketing résistant, c'est accompagner les entrepreneurs?
Je suis parti de ce que je savais faire. Donc mon expérience entrepreneuriale et souvent ouais, dans les conversations que j'avais avec mes amis, avec ça, je savais que j'arrivais à donner la pêche aux gens. Donc je me suis dit, bon bah il suffit d'outiller un petit peu ça. Et en fait, au début, je ne voulais pas forcément faire ça. Au début, moi, mon truc, c'était j'ai été bercé dans l'entrepreneuriat web. Et l'entrepreneuriat web, c'est pas mal la vente de formations en ligne. Et moi, j'adorais ça. J'en ai acheté quelques-unes auprès de gens que j'adore. Et que j'adore toujours, même après avoir acheté leur formation. Donc, il n'y a pas que des arnaques. Mais il y a beaucoup d'arnaques aussi. Et je voulais faire ça. Je voulais décorréler... mon salaire, un peu comme on s'est dit dans la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, je voulais décorréler mon salaire de à la fois mon impact sur le monde et de mon temps de travail. Je voulais décorréler tout ça. Donc pouvoir gagner beaucoup en travaillant peu et en travaillant beaucoup sur des sujets à impact qui ne rémunèrent pas forcément. Ouais, je voulais décorréler tout ça. Et donc la formation en ligne, pour moi, c'était un super... super façon de faire. Et en fait, j'ai voulu connaître le besoin de mon marché, des gens que, en fait, de celui que j'étais il y a, tu vois, en 2014, ou voilà, qui se dit, bah merde, je sais pas comment faire, j'ai des talents, mais je sais pas comment les activer. J'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup d'entretiens téléphoniques. Parce qu'à un moment, j'en avais deux par jour, ça a duré 4 mois, j'en avais deux par jour. Donc, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de monde. Et là, je me suis rendu compte que naturellement, en fait, les gens n'y connaissaient vraiment pas grand-chose en entrepreneuriat et en marketing. Et du coup, naturellement, dans la conversation, je leur donnais des pistes. Et je voyais que ça, ça connectait quoi. Et donc là, je me suis dit, bon, avant de vendre ma formation, de vendre ma formation, eh ben, je vais commencer à répéter les choses auprès de tous ces gens. Je vais les répéter. Et puis quand j'en aurai marre de les répéter, ben, j'en ferai une formation. Et comme ça, je suis sûr que c'est exactement ce qu'ils voudront et que ce sera pertinent. Et le truc, c'est que j'arrive pas à la sortir cette formation parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est le contact humain. Alors, je pense que je vais finir par le faire, mais voilà, le coaching, en fait, est un peu venu. Ça me met en énergie. J'adore voir le potentiel des gens. J'adore voir leur énergie et puis les petits points de blocage qu'on lève. Et puis là, ça y est, fou, ça part. Voilà, c'est un peu presque malgré moi. J'ai pas voulu être coach. J'ai pas, au contraire, j'avais un peu une mauvaise image aussi des coachs. Et en fait, voilà, finalement, là, actuellement, là, aujourd'hui, c'est ce qui me correspond.
D'accord, c'est très clair. Je te propose de revenir un petit peu dans le passé, ce que tu faisais avant, notamment le moment où tu as décidé de quitter la SS2I, comprendre un petit peu ce qui s'est passé, quel était ton sentiment à ce moment-là, comment est-ce que tu as pu en sortir, comment est-ce que tu t'es dit, vas-y, là, j'arrête parce que ça ne marche pas.
Ouais, ça c'est super intéressant. Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des déclics. Par exemple, moi, la stat qui... En fait, il y a eu des déclics qui ont créé une sorte de point de non-retour. C'est-à-dire un moment où tu te dis, je ne sais pas quand c'est que ça va arriver, mais je sais que je ne peux pas continuer. C'est-à-dire, je ne peux pas continuer 5 ans comme ça ou 10 ans. Donc, si ça ne peut pas continuer à l'infini, ça veut dire qu'à un moment, ça s'arrête. Et si ça s'arrête, soit je subis ce moment-là, donc burn-out, engueulade avec les chefs, j'en sais rien, ou soit je le décide. Et donc moi, j'ai pris ces déclics dans la gueule quand j'ai vu la stat 66% des animaux exterminés en 44 ans, je crois, un truc comme ça. Ça m'a fait froid dans le dos, je me suis dit, merde, moi qui suis plutôt wild and free, tu vois, j'ai dit, merde, on extermine la vie sauvage. Donc la vie sauvage, pour moi, ça représentait l'aventure. On parle souvent de biodiversité. Biodiversité, c'est assez froid, c'est un terme de biologiste. Même si la diversité en tant que telle est très belle en tant que concept, mais on l'a tellement rabâché que c'est un peu froid. Tandis que vie sauvage, pour moi, c'est vraiment important, en fait. On parle de nature, on va dire un champ, c'est naturel. Non, un champ, on va voir des plantes, on va dire, oh, c'est beau la nature. Non, un champ, c'est rien de naturel, c'est plus sauvage. Et ce qui n'est plus sauvage, pour moi, ça perdait énormément de beauté. Et donc, quand j'ai vu qu'on avait exterminé tous ces animaux, je me suis dit, merde, c'est pas juste la faute au recyclage, au pipi sous la douche et se couper l'eau quand on se brosse les dents. Donc premier déclic, et puis après je me souviens, il y a eu un autre épisode qui est un peu, je m'intéresse pas trop à la politique, mais quand Trump a voulu sortir des accords de Paris, j'ai vu l'annonce, et je me suis dit, ah tiens, culturellement, on en parlera de ce moment-là, comme déclaration de guerre d'Hitler à la France. Donc là je viens de choper le point de Godwin, je suis désolé pour ça, mais c'est vraiment la sensation que ça m'a donnée. Et je me suis dit, on le sait, on voit une sorte de dictateur climatique et on fait rien. Et on reste dans notre job. Et là, je me suis dit, merde, en fait, j'ai la même posture que les gens qui étaient sous l'occupation. C'est pas forcément des gens pas courageux, c'est pas forcément des gens pas intelligents. C'est juste des gens qui, c'était trop loin pour eux, le militantisme, le fait d'aller dans le maquis ou d'intégrer la résistance. Et du coup, je me suis dit, merde, comment faire ? Et je suis tombé sur un bouquin, enfin une conférence sur YouTube qui parlait d'un petit manuel de sabotage à l'usage de monsieur et madame tout le monde, pour ceux qui n'ont pas justement envie de rentrer dans la résistance, mais qui bossent chez l'ennemi, et comment saboter une organisation de l'intérieur. Donc c'est un manuel qui est hyper drôle, parce que c'est ce qui a donné mon envie de résistance, parce qu'ils vont me dire, il faut arriver en retard aux réunions, il faut faire des réunions avec plus de 10 personnes. Donc c'est tout des techniques pour pas se faire choper. Tu peux pas te faire choper en faisant ça, c'est juste, ils appellent ça pratiquer la stupidité volontaire. Enfin, bon, et donc du coup, là, ça m'a fait un vrai déclic, ça m'a redonné du pouvoir. Je me suis dit, même en travaillant dans le système, on peut le gripper de l'intérieur de manière discrète. On n'est pas obligé de faire des marches pour le climat ou d'aller de mettre des banderoles de partout, tout ça. Et donc, là, il y a eu un énorme déclic. C'est une sensation de puissance. J'étais plus un consommateur, je pouvais devenir un acteur. Un acteur avec des actions infimes, mais un acteur quand même. Et donc là, je me suis dit, bon, je vais commencer à faire mes actes de résistance en interne, même si la boîte dans laquelle je bossais, en soi, c'était pas des climaticides non plus. Mais je peux apprendre aux gens à le faire, ou si, je me souviens, j'ai démarché des gens sur LinkedIn qui travaillaient sur les plateformes pétrolières en leur disant, tiens, regarde le manuel, si jamais t'as un jour... t'as un sentiment de culpabilité envers tes enfants, bah vas-y, prends, applique-le, et puis ça botte la plateforme. Et je pense que j'ai l'air vachement extrémiste en disant ça, c'est pas grave. Mais bon, ça, voilà, ça m'a fait un déclic, et là je me suis dit, bon, bah, il faut que ça change. Donc je savais pas quand c'est que ça allait changer, mais je savais qu'il fallait que ça change. Et puis en fait, au bout de 2 ans, j'ai vu que l'émission, ça allait continuer, enfin j'ai regardé la vérité en face, et je me suis dit, bon, il va falloir changer. Et j'ai commencé à rédiger mes mails, mon coaching quotidien. Je me l'envoyais à moi-même, j'envoyais à personne. Après, j'ai commencé à l'envoyer à mes frères et sœurs, à mon père. Puis j'ai des copains qui m'ont dit, non mais t'écris pas vraiment un mail par jour. Et j'aurais dit si si. Ils m'ont dit, bah vas-y, qu'est-ce que t'écris dedans? Donc j'ai commencé à les inscrire, donc on est monté à 10-15 personnes. Et après, 2-3 bons copains copines qui en ont parlé à des amis en disant, bah, regardez, c'est génial, c'est newsletter et tout. Et puis ça a commencé à grossir, à grossir, à grossir. Et c'est comme ça, en fait, le changement a été très, très graduel, en fait. Et le moment de la démission, bon, voilà, je savais qu'il y avait des gens qui lisaient mes mails. Donc je savais que ça avait marché pour 30 personnes. Bah, ça pouvait marcher pour 300 ou pour 3000. Il y avait cette énergie-là dans le monde qui pouvait être activée. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y. Les planètes ne pourront jamais être mieux alignées que maintenant. T'as un peu de sécurité et tout, donc ce serait criminel de pas continuer avec toute modestie, mais on a tous des talents, et c'est criminel de pas les, quand les planètes s'alignent, de refuser de voir. C'est comme si t'as Dieu qui t'envoie un texto et tu le mets en message non lu, quoi. Regarde la vérité en face, vas-y, ose.
Donc tu t'es senti à ce moment-là vraiment en phase, et voilà, c'est après tous les déclics, c'était le moment d'y aller franchement, sachant que tu voyais qu'il y avait déjà un certain intérêt par rapport à ce que tu faisais auprès d'un groupe de personnes. Donc voilà, c'était le moment de passer à l'étape supérieure. Et comment est-ce que tu as réussi à négocier ton départ, en fait, puisqu'à ce moment-là, tu étais toujours employé?
Ouais, super bonne question. Alors la boîte, comme toutes les SS2I, normalement, pour... Je généralise un peu, mais pour habitude de refuser les ruptures conventionnelles. Et donc là, j'espère qu'il n'y aura pas mon ancien employeur qui va écouter ce podcast, parce que je vais donner un mauvais tips. En fait, j'avais un projet d'entreprise qui consistait à ubériser le ramassage des déchets. Pour que, parce que c'est souvent dans les copros des immeubles, tu as les gens prennent les poubelles pour un débarras. Et donc, tu as toujours une petite affiche avec écrit, enfin une feuille de papier avec écrit « Ceci n'est pas un débarras, il faut emmener à la déchetterie, sinon on paye les frais de copro, blablabla, blablabla. » Je me suis dit « Putain, c'est fou, tout le monde a ça. » Et pourtant, il suffirait, et des fois, il y a des trucs géniaux là-dedans. Donc, je me suis dit « Bon, bah, on n'a qu'à, vu que les gens ont la flemme de mettre dans la rue ou... il y a un ramassage, il y a certains jours dans chaque commune où tu peux mettre dans la rue et... la déchetterie vient ramasser, où tout le monde n'a pas de remorque, et puis la déchetterie, c'est en thème d'expérience utilisateur, c'est horrible. Enfin, tu vas, c'est ouvert à des horaires de merde, tu vas quand il fait beau, donc quand tout le monde y va, il te faut une remorque, ça pue, enfin, horrible. Donc je me suis dit, bon, bah, on n'a qu'à uberiser ce service-là. Et donc je réfléchissais à ça, mais je savais que j'en voulais pas, c'était pas mon type de boîte, donc je savais que j'allais pas la monter. Et donc en fait, j'ai créé un business plan, J'ai fait. 3 slides PowerPoint avec un tableau avec plein de chiffres qui me mettaient une évolution super où je pensais à tous les postes de dépenses. Et en fait, j'ai créé un faux business plan que j'ai. Et je suis allé voir mon manager. Je dis voilà, là, je vois qu'il y a ma mission se finit bientôt. je sais que vous êtes un peu en difficulté, enfin voilà. Donc moi, je voudrais te demander une rupture conventionnelle. Je m'étais approché d'avant d'un manager que j'aimais bien et qui a prêché un peu pour moi, qui était pas mal tourné vers l'entrepreneuriat. Et du coup, j'en ai parlé à 2-3 personnes avant. Et en fait, du coup, quand j'ai posé le dossier, j'aurais dit, bah voilà, moi j'ai des convictions, l'expérience chez vous a été super. Donc j'ai un peu menti, mais j'ai beaucoup appris. Et voilà mon projet, je veux ubériser ça. Je pense qu'on a besoin de projets comme ça et tout ça. Et en fait, ils m'ont dit oui tout de suite. J'ai reçu un mail, ouais voilà, on a parlé de toi dans le conseil, et puis on accepte, on a besoin de gens comme ça, ton projet il est super. Donc bah, écoute, rendez-vous à ce moment-là pour signer les papiers, voilà comment va être la procédure. Donc en fait, je suis allé un peu au bluff, et pour le coup ça a marché en fait. Bon, parce que j'avais des bonnes relations, enfin bonnes relations, pas extrêmement bonnes, mais j'y suis allé avec beaucoup d'humanité en fait, sans chercher le conflit, et c'est bien passé.
Je trouve ça absolument génial, mais juste que je comprenne bien, en fait, tu as inventé un projet entrepreneurial que tu n'avais absolument pas ou que tu avais, et pourquoi est-ce que ce projet-là est mieux passé que celui auquel toi que tu avais réellement, qui était marketing résistant?
Ouais, super. En fait, je connaissais, si tu veux, je connaissais un peu la psychologie des gens qui bossent dans les grosses boîtes. Et en gros, eux, s'ils n'accordent pas de rupture conventionnelle, c'est parce qu'ils ne veulent pas que les gens se retrouvent au chômage. Et ils ne veulent pas verser éventuellement la petite prime, mais bon, généralement, c'est des cacahuètes. Et notamment parce qu'ils veulent pas que les gens soient au chômage, puis se fassent piquer par les consultants, donc ils veulent réduire leur turnover. Donc s'ils acceptaient la rupture conventionnelle à tout le monde, ça passerait pas. Donc, et je me doutais bien qu'il y avait déjà des gens qui étaient venus les voir en leur disant « Ouais, j'ai un projet, je voudrais me lancer, parce que c'est à la mode », et ils viennent avec des projets un peu, tu vois, tu sens que c'est pas travaillé, ou tu sens que c'est une super idée, mais qu'il y a rien en face. Et notamment, bah, tu vois, tout ce qui est coaching, accompagnement, médecine douce, médecine alternative, naturopathie, tout ça. Tu vois, tu as tous les changements de cap fait ta crise de la quarantaine, de cinquantaine, de la trentaine, j'en sais rien, où tu cherches la reconversion et tu tournes un petit peu vers ces métiers-là. Je savais qu'ils avaient déjà eu des cas. Enfin, je le savais pas, mais je m'en doutais. Donc, je me suis dit, métier de coach, si je leur dis, voilà, allez, écoutez les gars, j'écris un mail par jour, pour le moment, j'ai pas de clients, mais bientôt, il y a des gens qui achèteront des formations en ligne. Ils m'auraient regardé, ils m'auraient rigolé au nez. Personne, déjà, il y a très peu de gens qui savent qu'on fait de l'argent avec Internet en vendant des formations en ligne. Ceux qui le savent, ils savent même pas les montants que ça peut atteindre. Donc, pour eux, c'est ok, très bien, t'as un projet, mais c'est un projet qui est pas viable. Donc, t'es pas sérieux. Donc on te traite comme quelqu'un de pas sérieux et on te traite comme un enfant. Et donc là, pour être traité comme un adulte avec un vrai projet, il fallait que je monte avec un truc, voilà, en mode start-up, et très organisé dans la logistique, dans le voilà, j'ai pensé aux différents problèmes. Au début, ça va être compliqué, mais en fait, il suffit que je débloque telle ressource pour ensuite y arriver. Donc en fait, il me fallait un projet de vraie entreprise, entre guillemets, plutôt qu'un projet juste d'activité d'activité personnelle, quoi. Si je disais, ouais, j'ai créé ma micro-entreprise, j'ai déposé mes statuts, il m'aurait dit, ouais, c'est bon, des comme toi, on en voit plein. Voilà. Il fallait forcément que j'ai un projet qui soit différent des autres pour être traité différemment des autres.
Quelque chose qui, toi, te semblait crédible à leurs yeux.
Ouais. Ouais. Et vu que j'avais déjà pensé à ce projet, parce que voilà, j'étais dans l'ambiance entrepreneuriat, j'avais déjà gribouillé des trucs sur le papier. Alors, je savais que c'était pas un projet pour moi dans le sens où c'est un métier de logistique et que j'avais pas envie de me trimballer au début avec ma carriole avant d'avoir des employés et d'aller faire le tour des maisons. J'imaginais pas mes journées comme ça, même si c'était pendant 1 ou 2 ans le temps de lancer la boîte. Mais je trouvais que ça avait de la gueule, tu vois. Ubériser le ramassage des déchets, j'avais mon petit argumentaire. Oui, aujourd'hui, c'est fait par des acteurs économiques comme Suez, voilà. Donc, c'est des monopoles et c'est mal fait. Comme tous les services publics, ils n'ont pas la pression de la concurrence, donc ils n'innovent pas. Donc, moi, en voulant ubériser ça, en fait, je fais un peu la même chose qu'avec le taxi ou avec... Enfin, voilà, j'ai monté mon argumentaire comme ça. Et du coup, en fait, ça, ça a eu l'air intelligent. Et mais voilà, du coup, ils ont accepté, quoi.
Ok, bon, bah, je trouve ça vraiment très, très marrant comme manière de négocier sa rupture conventionnelle. Bon, en tout cas, ça a marché, c'est bien. Et ce qui t'a permis, du coup, de pouvoir monter sereinement Marketing Résistant, puisque tu pouvais percevoir les allocations chômage en même temps.
Oui, exact.
Et alors, je me doute un petit peu de la réponse parce qu'on l'a abordé, mais je te pose quand même la question. Quand tu as commencé à vouloir te lancer sur Marketing Résistant, à quitter ton job à la SS2I, quelle a été la réaction de ton entourage, tes amis ?
Alors, juste pour revenir un tout petit peu avant, sur le côté... pendant que je montais ça, le projet, j'aurais aussi pu dire, bah voilà, j'ai monté ma marque de lunettes anti-lumière bleue, on fait 600 000 euros de chiffre d'affaires à 3 en vendant des produits sur Amazon, donc ça marche, je veux démissionner. Mais dans ce cas-là, il ne m'aurait aussi pas dit, accepter ma rupture. Donc j'avais déjà un autre projet, j'avais déjà des trucs qui marchaient, mais j'étais obligé d'inventer un autre truc pour que ça colle à leur grille de lecture. Donc, si j'avais un conseil à donner aux gens qui veulent avoir une rupture conventionnelle, ne parlez pas de votre projet, parlez plutôt d'un truc ou présentez votre projet de sorte que ça plaise à votre employeur. Et pour répondre à ta question par rapport à la réaction de l'entourage, bon, déjà, quand je commençais à faire mes trucs sur Internet, ils étaient tous « fais ton truc, mais ça ne marchera pas ». Mais bon, on t'aime bien, donc continue. Et puis après, quand tu commences à parler des chiffres que tu fais, c'est intéressant, t'as trop de la chance, j'aimerais bien faire ça, t'as trouvé le bon filon et tout, mais ça leur paraît tous un peu grosso modo, c'est que t'as eu de la chance. Et donc quand je me suis lancé en disant au pire j'ai le chômage et au pire j'ai cette boîte qui commence à bien rouler. D'ailleurs, je précise au passage que c'est pas parce qu'elle faisait beaucoup de chiffres qu'on était rentable, parce qu'il y avait énormément de stock, énormément d'immobilisation, de réinvestissement. Donc en fait, on se versait pas de salaire les deux premières années. Donc le chômage était heureusement que j'ai eu, sinon c'était mort. Et en plus, on n'était pas à 600 000 euros de chiffre d'affaires la première année, peu importe. Et donc, ouais, la réaction de mon entourage, ça a été « vas-y, fais gaffe quand même ». Je me souviens de mon père qui me disait « ouais, et puis comme ça, peut-être que tu peux passer le concours pour être prof, et comme ça, tu auras du temps, et comme ça, tu auras quand même de la sécurité ». Genre, j'ai entendu que tu n'étais pas bien dans ta boîte, par contre, ton truc là, ça a l'air « je t'aime bien, mais j'y crois pas », donc trouve-toi un backup et un parachute de secours, quoi. Et sauf que moi, je savais que si j'avais une activité à mi-temps, ça allait être compliqué parce que t'as pas la pression, t'as pas l'urgence d'agir, t'as pas la nécessité. Et voilà, ma copine de l'époque a été extrêmement bienveillante. Elle me suivait dans tout et donc elle m'a suivi, m'a dit « bah vas-y, ok, pas de souci ». Donc elle avait une situation stable aussi, elle était prof des écoles, donc ça facilite. Parce qu'on se retrouve pas, j'ai pas entrepris avec deux enfants à charge tout seul. Bien que je pense qu'on peut entreprendre quand même comme ça, mais moi j'avais quand même cette sérénité là. Et du coup, les copains, j'en ai pas trop parlé au début en fait. J'en ai pas trop parlé. J'ai parlé de mes mails et tout le monde me regardait avec un petit air de pas de pitié, mais de « ouais, c'est cool ce que tu fais, ça a un impact, c'est trop bien et tout ». Mais même maintenant encore, donc 2 ans et demi après, j'ai des gens qui me disent « mais c'est bon, t'arrives à en vivre ?» tu vois, qui sont un peu mal à l'aise par rapport à ça. Et en fait, même si je leur dis ce que je fais, même si ils captent pas, en fait, ils sont plutôt... ils disent ok, bon, il a fait son truc, j'espère que ça a marché. Mais même tu leur donnes le chiffre, ils te disent c'est cool que ça marche, mais sous-entendu, ça va pas durer bien longtemps, ou voilà. Alors qu'en fait, non, c'est très serein et c'est très. J'ai vraiment l'impression d'être l'architecte de ma vie, quoi. Et je pense que cette posture-là, notamment vis-à-vis des gens qui se posent des questions autour de moi, qui veulent aussi entreprendre ou qui veulent se libérer du salariat et partir un peu en quête de sens, Ces gens-là, quand ils voient ma posture, quand ils voient le nombre d'heures que je travaille, les projets sur lesquels je bosse et ce que je gagne, ça leur donne envie. Ils se disent « Ah non, en fait, c'est possible. Il est passé de l'autre côté du miroir. Ça peut être possible pour moi aussi. » Donc, y a eu cette phase de doute de leur part, et ensuite, mais doute bienveillant. Et ensuite, il y a eu beaucoup de respect. Voilà.
C'est marrant ce que tu dis par rapport aux gens qui, même aujourd'hui, alors que tu en vis bien, que ça tourne, sont un petit peu sceptiques par rapport à cette position. D'après toi, c'est dû à quoi ? C'est le fait que ce ne soit pas un poste de salarié dans une entreprise, ou c'est le fait que tu vives avec une incertitude entre guillemets constante, celle de l'entrepreneur? C'est quoi, c'est cette difficulté à appréhender cette position-là, d'après toi?
Alors, il y a plusieurs choses et tout se mélange, et je pense que les gens sont un peu différents pour chacun. Le premier truc, c'est ça rentre pas dans les cases, donc j'ai du mal à l'imaginer. Voilà. Alors ça, c'est surtout la part de gens qui ont vécu dans, même dans leur enfance, je sais pas quoi, dans un milieu de salariés ou de fonctionnaires. Et le fait de monter des projets, c'est quelque chose de fantastique. Enfin, vraiment fantastique au sens littéral du terme. C'est des héros. Enfin, ça paraît une montagne. Après, tu as les entrepreneurs. Bon, là, j'en ai pas énormément dans mon réseau, mais j'en ai avec l'esprit entrepreneurial qui se disent « Ah, ok, je comprends. Je pose des questions. » Mais ça me paraît bizarre, j'y crois pas à ton... Tu vois, c'est comme... tu vois, là, j'ai un copain qui torréfie des graines avec un four solaire, là, c'est la boîte qu'on va bientôt monter, enfin, pour vendre les fours solaires, et je parlais, et puis je disais, c'est quoi ton chiffre d'affaires? Il me dit 8000 euros par mois. 8000 euros par mois en torréfiant des graines, quoi. Je dis, waouh, waouh. Et c'est ça, tu dis à n'importe qui... Genre ils pensent, si tu fais 8000 euros par mois, tu deals ou t'habites à Paris et t'as un super poste, quoi. Donc il y a des choses, c'est trop haut pour être compris, d'autant plus voilà, je gagne bien ma vie et j'ai quand même assez de, pas de temps libre, mais du temps pour mes autres projets, donc c'est pareil, c'est compliqué à concevoir en fait quand t'es habitué à avoir un volume horaire défini et t'as ton salaire à la fin et tu te dis bon bah voilà, je suis payé, tu vois, mon salaire d'ingénieur c'était l'équivalent de 120 euros la journée que j'avais calculé, bon bah là je peux passer des journées à plus de 150 et en travaillant peut-être 3 heures par jour, donc 3 heures par jour vraiment en coaching, voilà, et donc du coup les gens ils disent mais c'est pas possible, enfin comment tu fais, enfin, c'est pas possible qu'on te donne autant d'argent pour si peu d'heures travaillées. Donc en fait ça casse des schémas, et je pense aussi il y a un autre truc qui vient, c'est bon, en fait si on dit pas aux gens que c'est possible, et le problème en France c'est qu'on on parle pas trop d'argent, donc en fait on a l'impression qu'entreprendre c'est un truc de pauvre ou de désespéré ou de gens qui ont eu l'illumination divine ou un truc de jeunes qui veulent faire start-up et lever plein d'argent, et on n'imagine pas que on est très tabou par rapport à l'argent, et du coup on n'imagine pas que les gens peuvent bien vivre, et du coup on a l'impression que le salariat c'est la sécurité, alors que le salariat en soi c'est pas du tout sécuritaire. Enfin, tu peux te prendre une licenciement économique, tu peux te prendre une démission, ou alors si qu'on te vire, ou alors si on ne vire pas parce que c'est pas la mode, on te fait un harcèlement psychologique et on te met sur démission de merde ou pour te forcer à quitter, quoi. Donc c'est rien du tout de sécuritaire. T'es un agneau, t'es un agneau dans une exploitation industrielle, et tu crois que c'est la sécurité parce qu'on t'apporte à manger, mais en fait, dans quelques semaines, on va venir te couper, quoi. Donc, le côté être libre, ça apporte beaucoup de sécurité. Et voilà. Et le dernier point, c'est, je dirais, qu'il y a un peu de jalousie aussi. Jalousie déguisée, qui ça veut ou pas. Mais quand, si tu dis, voilà, je gagne 120 euros par mois en bossant 3 heures par jour. Enfin 120 euros par jour en bossant 3 heures, les gens, et en plus en bossant de chez toi, donc t'as pas les trains de trajet, t'as pas le, tu peux bosser n'importe où. Je fais des coachings où j'étais les pieds dans l'eau jusqu'à la taille chez mon père à Perpignan. Les gens, tu leur dis ça, il y a un brin de jalousie, quoi. Eux, ils sont chez dans leur voiture ou dans leur bureau tout gris avec les collègues pas top. Je caricature à donf, hein, mais donc il y a le côté je te crois pas parce que je ne veux pas le croire et ça va pas durer. Ok, très bien, vas-y, fine, mais ça va pas durer. Donc voilà, mais tout ça hyper inconscient et je dis ça vraiment avec beaucoup de bienveillance et c'est pas une critique, hein, mais voilà.
Non, mais je comprends, ça casse des schémas effectivement qui sont ancrés et qui paraissent assez assez difficiles à imaginer quand tu n'es pas du tout là-dedans. Si je change un petit peu de sujet pour regarder le futur et tes projets à l'avenir, que ce soit au niveau personnel ou que ce soit avec Marketing Résistant ou autre, comment est-ce que tu te projettes aujourd'hui?
Ouais, c'est trop bien. J'ai beaucoup d'enthousiasme là, on est en train de cofonder une boîte. Et je reviens du coup au début de ce podcast. Quand j'ai bossé dans les énergies, enfin dans le solaire thermique à concentration, il y avait une petite boîte, petite start-up, asso, je ne sais pas trop, qui s'appelait GoSol, gosol.org. Et j'adorais ce qu'ils faisaient. Ils sont en Finlande, et vraiment une petite équipe de jeunes qui ils sont en Afrique, qui développent des trucs hyper innovants, hyper simples, super low-tech, hyper engagés. Enfin, ils mettaient vraiment des étoiles dans les yeux. Et je rêvais de bosser pour eux, j'avais essayé de les contacter, j'avais pas eu trop de réponse, enfin, ils embauchaient pas, ils n'avaient pas trop de sous, mais bon. Et quand j'ai commencé à ouvrir ma gueule sur LinkedIn, à parler de ce que je faisais, à parler de mon engagement et tout, donc l'année dernière, quoi, il y a 6 mois, là, il y a Eva Vicens, une nana super, la CEO à l'époque de cette boîte, qui m'a contacté via LinkedIn et qui m'a dit « Ouais, merci d'avoir parlé de GoSol, maintenant on a sorti un nouveau truc, c'est Lightfire. » Donc, je me suis dit « Waouh !» La personne que j'idolâtrais il y a 7 ans, là, elle vient me parler. Et donc, super opportunité. Donc, on commence à échanger, on se Skype. Limite, on tombe amoureux de connivence, en fait, de connivence sur les valeurs, sur le projet et tout. Bon, elle a l'âge de ma maman, donc c'est quand je dis tomber amoureux, c'est vraiment au sens poétique du terme. Et donc là, on imagine de comment on pourrait bosser ensemble. Donc je bosse un petit peu pour eux au niveau marketing, tout ça sur le truc. Et là, il y a un membre de l'équipe qui a monté la torréfaction solaire et boulangerie solaire en Normandie. Donc pas le meilleur endroit pour faire ça, mais en vrai, ça marche super bien même en Normandie. Donc c'est assez ouf. Et donc, il a monté sa boîte qui roule super bien. Et il me dit, là, avec GoSol, parce que lui, il était salarié de GoSol, en plus de son activité entrepreneuriale, il me dit, avec GoSol, là, on a trouvé un fabricant en France qui peut nous faire les machines. On voudrait développer l'entrepreneuriat ou l'artisanat solaire. Est-ce que tu viens? On a besoin de quelqu'un en marketing. Nous, on est des quiches. On aimerait bosser avec toi. Et ça, c'était en juin ou en juillet. Et donc là, on est en train de cofonder cette boîte. Donc je ne sais pas à l'heure actuelle si ça va réussir, mais il y a toutes les raisons que ça marche. On a une équipe super et on a nos produits, les concentrateurs solaires sont vraiment géniaux. Et quand on voit le chiffre d'affaires qu'on peut faire avec, et l'innovation même, en fait, en termes d'impact sociétal, d'alignement, tu vois, il y a plein de gens qui sont en reconversion professionnelle ou qui se disent, des cadres qui veulent devenir artisans, qu'on appelle les néo-artisans ou qui veulent revenir refaire des choses de leurs mains, en fait, c'est génial parce que là, t'as de l'impact, à la fois, tu es sur une innovation technologique, c'est sexy, enfin, il y a plein de choses. Et donc, il n'y a pas de raison que ça décolle pas. C'est le gros projet. Où on est à fond dessus. Et après, sur l'avenir de Marketing Résistant, le but, c'est de... J'ai plein d'excellents retours, mais je n'ai pas trop le temps d'en m'en occuper avec mes coachings. Donc, j'aimerais produire beaucoup plus de contenu, produire éventuellement, tu vois, des vidéos et tout ça. Après, moi, j'ai un style très artisanal. Enfin, je ne suis pas du tout bon en montage vidéo. Mes mails, tu vois, j'ai pas mal de... Enfin, ils sont un peu décousus. Et donc, il faudrait que j'articule un peu tout ça pour envoyer des messages à celles et ceux qui se sentent seuls et dans leur combat, dans leur idéologie et dans leur boulot, tout ça. Et pas forcément, tu vois, pour qu'ils me rejoignent, parce que le coaching, j'ai plus trop de temps, en fait, pour le faire. Mais juste pour leur dire, voilà, vous n'êtes pas tout seul, il y a des gens qui se bougent, on n'est pas tout seul à se poser des questions, et on peut s'en sortir. Enfin, on peut... Venez, intégrez la résistance, rapprochez-vous, allez voir des réunions. On vous demande pas de prendre le maquis tout de suite, d'être un militant à fond les ballons, mais il y a des petites pistes. Vous avez un rôle à jouer. Et souvent, je finis mes mails par cette phrase que j'adore, c'est « Nous sommes celles et ceux que nous attendions », qui est tiré d'un livre, enfin, de « Les suspendus » de Sandrine Rudeau, que j'adore particulièrement. Et voilà.
Et est-ce que c'est quelque chose que tu aurais envie de dire au Maxence de 2014, à l'époque où tu étais encore un étudiant ingénieur ?
Ouais. Ouais, je pense que ce que je lui dirais, c'est de, entre guillemets, grandir. Est-ce que j'étais un petit peu de plus excusé d'être là ? De plus s'excuser d'exister, c'est bon, Maxence, t'es plus un petit garçon, arrête de demander la permission, arrête de vouloir tout bien faire comme il faut, ton entretien, ton entretien d'embauche, ta bonne petite mission, être un bon petit soldat, t'as plus besoin de faire ça, t'as plus besoin de montrer au monde, tu peux être toi, et arrête de demander la permission, arrête de demander la permission pour être quelque chose de différent. Fais, avance avec détermination, parce que ça sera dur, mais il y a des gens qui te regardent, et si t'abandonnes pas, si tu vis en dehors de leur regard, et que 6 mois après ils se retournent et ils te voient que t'es toujours là en train de te battre, tu vas les inspirer, et ils vont se dire waouh, celui-là c'est un cheval gagnant, j'ai envie de parier dessus, ne serait-ce que par cette détermination. Donc vas-y, fais, avance avec détermination, écoute le monde, mais ose parler aussi. Ose parler sur LinkedIn, ose parler avec intelligence, empathie, bienveillance, mais ose. Ose parce que tu aimes voir des gens comme ça, donc il n'y a pas de raison que toi, tu ne t'autorises pas à le devenir. Donc, sois celui, un peu comme Gandhi qui disait, soyons le changement que l'on veut voir en ce monde. Moi, j'en ai une très perso qui, ouais, sois celui que tu attends, quoi. Toi, celui que tu attends, tu peux être ton meilleur ami, tu peux être... Ouais.
Et c'est aussi des recommandations que tu donnerais, j'imagine, à ceux qui veulent se lancer ou aux étudiants qui ne savent pas trop où aller.
Je leur dirais, vous êtes celles et ceux que vous attendiez. Il n'y a personne d'autre que vous, avec vos talents, avec votre situation, avec vos ressources, votre réseau, qui peut faire ce que vous allez faire. Donc, devenez qui vous êtes. Soyez celle que vous attendez et osez parler, osez communiquer sur les réseaux sociaux, pareil avec intelligence, et vous allez voir qu'en fait en étant plus discret, on attire des gens vers soi, on rencontre aussi des gens, enfin c'est aussi actif, c'est pas seulement on attire mais c'est actif, et ce moment là c'est merveilleux. Enfin, quand moi j'ai eu Eva qui m'a appelé, on s'est appelé la première fois, mais genre j'étais hyper ému. J'avais limite envie j'ai eu envie de pleurer de la gorge serrée quand on s'avait au téléphone, parce que c'était un rêve. Je me suis dit, putain, merde, j'ai réussi. Et comment j'ai fait ? Juste en osant parler.
Maxence, je te remercie beaucoup pour toutes ces recommandations et pour tous ces conseils. Et je te souhaite bon courage dans les différents projets que tu portes. Et je te dis à très bientôt.
Super, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi et puis longue vie à ton podcast, parce que je pense qu'il peut aider énormément, énormément de gens. Et donc merci de t'être lancé là-dedans.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, oser